Radio Django. Vivre à Lausanne.
Alors, il y a quelques semaines, on vous parlait sur Radio Django de mouvement féministe avec Féminista. Aujourd'hui, on réagit et on parle de mouvement masculiniste. Avez-vous déjà entendu parler des masculinistes ? Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils revendiquent ? C'est ce qu'on va essayer d'éclaircir comme question ce soir avec nos deux invités. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Et bonsoir Gloria. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux membres du groupe Féminista de Lausanne et on va décortiquer ensemble ce mouvement masculiniste. Alors, qu'est-ce qu'on entend précisément par masculinisme ?
Alors, le terme masculinisme a plusieurs significations. Il renvoie à une idéologie réactionnaire, à un contre-mouvement. Bon, il a d'abord été utilisé dans les années 90 par la philosophe Michel Ledeuf, dont on cite souvent la définition, puisque Michel Ledeuf caractérise le masculinisme comme une forme d'androcentrisme, c'est-à-dire que la société est envisagée par des hommes et en fonction de leur point de vue. Le masculinisme, c'est aussi un antiféminisme, puisque les groupes masculinistes prétendent que suite au mouvement féministes des années 70, les hommes souffriraient d'une prétendue crise d'identité et seraient discriminés. En ce sens, l'émergence des masculinismes s'ancre dans une période qu'on qualifie de ressac ou de retour de bâton, c'est-à-dire dans un contexte où les droits des femmes et l'idée d'inégalité entre hommes et femmes sont sans cesse remis en cause.
Alors, comment sont organisés ces mouvements masculinistes, Pauline ?
Alors, c'est effectivement également un mouvement organisé, puisque au niveau national et international, des groupes se mobilisent autour de certaines revendications qui visent principalement à maintenir le pouvoir des hommes et à perpétuer les inégalités entre hommes et femmes. Bon, il faut savoir que le qualificatif masculiniste n'est pas nécessairement employé par les organisations qui revendiquent plutôt le fait de militer pour les droits des hommes ou la cause des hommes. Et certains, comme Yvon Dallaire, un psychologue masculiniste, se qualifient lui-même d'hoministe.
Et puis alors, quelles sont les fameuses revendications ?
Alors, leurs axes de mobilisation sont variés, on peut en distinguer 5. En premier lieu, ils veulent réformer les lois sur le divorce pour instaurer la garde partagée comme un système dominant en cas de séparation ou divorce. En deuxième lieu, ils contestent l'ampleur des violences conjugales contre les femmes et l'ampleur des abus sexuels sur les enfants dans le cadre de la famille. En troisième lieu, ils stigmatisent les familles monoparentales en alertant autour d'un prétendu danger. Et en quatrième lieu, ils prétendent que la mixité a un impact négatif sur les résultats scolaires des garçons.
Et puis enfin, en cinquième lieu ?
Eh bien, donc finalement, ils veulent aussi introduire le principe de codécision en matière de droit procréatif, c'est-à-dire que les hommes pourraient décider en cas d'avortement, par exemple.
Oui, effectivement. Alors la question des pères séparés semble centrale dans ces mobilisations, Gloria.
Effectivement, la plupart des groupes masculinistes se sont organisés en tant qu'association de pères séparés ou divorcés. Et ils prétendent être discriminés dans les tribunaux de la famille. Selon le documentaire Innomine Patris de Myriam Tonelotto et Mark Hansman, diffusé sur Arte, les premières associations d'hommes divorcés se posant en victimes de femmes apparaissent aux États-Unis à la fin des années 50. Les masculinistes parlent de discriminations vécues par les hommes résultant des excès, entre guillemets, du féminisme, qu'ils appellent parfois féminazisme.
Ah oui, ils y vont fort. Quand est-ce que ces groupes masculinistes sont arrivés en Europe ?
Oui, un peu plus tard qu'aux États-Unis et au Canada, dans les années 1980-1990, le mouvement de pères séparés apparaît en Europe, notamment en Belgique avec le mouvement pour l'égalité parentale en 1982, SOS Papa en France en 1990 et Fathers for Justice en Grande-Bretagne au début des années 2000. En tout cas, ils ont eu bien plus de succès que les associations féministes qui luttent pour l'égalité des sexes et contre les violences.
Et puis, est-ce qu'il existe des groupes de ce type en Suisse ?
Oui, bien sûr. Des groupes pour les droits des hommes et en particulier la cause des pères existent aussi ici. Plusieurs associations comme le CROP, Coordination romande des organisations paternelles, ou l'association Père pour toujours de Genève en sont des exemples. Depuis quelques années, ces associations et d'autres mènent des actions dans l'espace public, comme celle de Père Noël Bleu, avec le slogan « Encore à Noël sans papa ». Leur tract présuppose que, concernant les droits de garde, les pères subiraient une discrimination dans les tribunaux de la famille. Selon eux, les juges seraient biaisés et favoriseraient les mères aux dépens des pères. Bref, on trouve en Suisse les mêmes arguments que dans d'autres pays. Bon, et puis, il existe des groupes organisés, mais aussi une rhétorique plus diffuse qui affirme que l'égalité entre hommes et femmes est non seulement acquise, mais que les hommes sont dorénavant désavantagés. Cette idée est très présente dans les médias, mais aussi dans certaines administrations suisses.
Effectivement, la question des gardes partagées est aussi centrale, non ? Quels intérêts trouvent les masculinistes dans les lois qui instaurent le système de garde partagée ?
Oui, nous pouvons en établir au moins 4. D'abord, un intérêt financier, car avec la garde partagée, le versement de la pension alimentaire tend à disparaître. Ainsi, selon Denise Côté, par exemple, sociologue québécoise, plus de 40% des mères interviewées dans sa dernière recherche sur la garde alternée admettent assumer la majorité des dépenses liées aux enfants. Elle en conclut donc que l'obligation de pourvoi se transférait plus rapidement aux mères que l'obligation de prise en charge des soins aux pères, et que les mères n'ont pas été dégagées pour autant de la responsabilité des soins. Deuxièmement, ils trouveraient un intérêt de contrôle sur l'ex-conjointe. En effet, le système de garde partagée fait que tout déménagement d'un des deux parents est soumis à l'autorisation de l'ex-conjoint. Cela pose de graves entraves aux mères victimes de violences conjugales et à la possibilité d'échapper à ces violences après la séparation. Ensuite, il semble avoir une volonté de museler les dénonciations pour violences conjugales. Les femmes qui dénoncent des actes de violence sont accusées de vouloir garder la maison et les enfants et de dépouiller les pères de tous ces droits, entre guillemets. Finalement, c'est une remise en cause du divorce même. Des études montrent que le taux de divorce diminue près de 4 fois plus dans les États à garde conjointe élevée aux États-Unis.
La question des violences conjugales, tant physiques que psychologiques, est aussi très présente, non ?
Oui. Une autre idée qui tend à s'imposer à l'heure actuelle et qui est portée par ces groupes masculinistes, c'est le fait que les hommes subiraient les violences conjugales autant que les femmes, mais que cette violence serait invisibilisée. Or, les données statistiques dont on dispose rappellent que les femmes subissent plus de violences que les hommes et que ces violences ont des conséquences plus graves.
Alors, si je comprends bien, si je suis bien ce que vous dites, on pourrait laisser penser que les femmes seraient plus gentilles et moins violentes que les hommes ?
Non, ça n'a rien à voir. Il s'agit de réaffirmer qu'il y a des inégalités et des rapports de domination entre hommes et femmes. Et la violence conjugale est l'une des conséquences de ces inégalités. A contrario, justement, les masculinistes cherchent à diaboliser le comportement des femmes en véhiculant des idées fausses. Et c'est notamment le cas avec le syndrome d'aliénation parentale, qui est très défendu par ces groupes et qui est un concept inventé pour contrer les déclarations de violence sur les enfants au cours des séparations. Donc selon ce concept, si un enfant ne souhaite pas voir un de ses parents, et souvent celui qui n'a pas la garde principale, donc souvent la mère, ce serait à cause de l'aliénation ou de la manipulation du parent gardien, donc la mère.
Et puis alors concrètement ?
Donc concrètement, l'idée est que les femmes manipuleraient les enfants pour qu'ils rejettent les pères. Or, ce concept n'a aucune base scientifique. Toutes les instances professionnelles, comme l'Organisation mondiale de la santé et d'autres associations de neuropsychiatres, rejettent ce concept. Pourtant, beaucoup de juges de la famille utilisent malheureusement, actuellement, dans plusieurs pays d'Europe, le concept du syndrome d'aliénation parentale. Il sert à cacher les violences physiques et sexuelles dans la famille.
Alors, en conclusion, Gloria et Pauline, il reste beaucoup à faire dans le domaine des inégalités entre les hommes et les femmes.
Effectivement, il reste beaucoup à faire, c'est pour ça qu'on est un féministe.
Et puis oui, effectivement, avec le masculinisme aussi. Merci beaucoup Pauline et Gloria d'être venues nous parler ce soir d'une partie de cette question de masculinisme versus féminisme. Une question, on l'a bien compris, compliquée et très riche. Vous êtes toutes les deux membres du groupe Féminista de Lausanne. Merci beaucoup. Une
Merci.
Chronique
Merci.
À retrouver et à écouter sur notre site www.django.fm.